Voilà, quand j'étais un petit garçon, quand je rentrais de l'école, j'étais rempli de passion parce que je voulais voir à la télévision en noir et blanc Star Trek. Je ne sais pas si vous connaissez Star Trek, Captain Kirk et Spock. Spock, vous connaissez Spock? Avec des oreilles pointues, voilà, Spock. Et donc, vous connaissez Spock. Est-ce que vous connaissez la bénédiction de Spock? Ah! Presque. Hein? Voilà. Moi, je fais comme ça. Faites comme ça, vous arrivez à faire ça. C'est la bénédiction de Spock. Hein? Vous pouvez dire, mais est-ce qu'on a eu la bénédiction dans l'église ce matin? Vous pouvez dire, oui, Robert nous a donné la bénédiction de Spock, de Star Trek. Et après, ils nous ont rayés de la Fédération protestante de France. Mais voilà, ça. Voilà, la bénédiction de Spock. Vous l'avez? Vous arrivez là? Oh, voilà, c'est super. Allez, vous allez utiliser vos mains ce matin. Hein? La bénédiction de Spock. Et donc, quand Spock faisait ça, il disait « Longue vie et prospérité hein, ». C'est pas mal, hein ?« Longue vie et prospérité hein ». Et donc, voilà, « Longue vie et prospérité ». C'est la première bénédiction. Je vais vous donner trois bénédictions de ce matin. Hein. Mais bon, il faut être souple. Hein. Et on va faire avec les deux mains. Hein. Et donc, voilà, voilà, comme ça. « Longue vie » et prospérité. Mais quelquefois, d'avoir longue vie et prospérité, ce n'est pas toujours évident. Et donc, je vais vous donner la main de la bénédiction hein, ce matin. Hein, la main de la bénédiction. Et donc là, vous allez... Bon, souvent, on ouvre la Bible, hein, ça viendra, mais on va ouvrir nos mains. On va lire nos mains ce matin. Hein, ça devient de pire en pire. Hein. Et donc, on va lire nos mains. Et donc, vous avez votre main, d'accord? Et donc, ici, c'est Facebook. Like, j'aime. Mais quelquefois, la vie est j'aime, mais quelquefois, la vie est j'aime pas, tu vois. Et soit notre poussée en haut, soit notre poussée en bas, tu vois. Et quelquefois, on vacille entre en bas et en haut. C'est la vie, n'est-ce pas? Like, not like. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. Et donc... C'est comme ça la vie. Et donc, pour moi, ce pouce-là, c'est comme notre vie. Et ce pouce-là, ça peut toucher toutes les autres... C'est, on peut écarter le pouce, c'est bien là. Voilà. Comme ça, là ou là, là ou là, là. Et donc, quand c'est l'envie et bénédiction, c'est la réussite. Et donc, je vais vous donner les airs ce matin. Je m'appelle Robert Rive, et donc je vais donner les airs. Hein, c'est la main de la bénédiction avec les airs. Et donc voilà, on peut réussir notre vie, réussir. Et donc on peut avoir un pouce qui réussit. C'est bien, réussir. Mais, et donc il y avait un prêtre, Michel Quast, en 1961, il a écrit un livre, Réussir. Et ça vaut la peine de lire. Comment réussir sa vie? Waouh! Mais il y a aussi Albert Camus, en 51. Et lui, il a écrit un autre livre, L'homme révolté. L'homme révolté. Et donc là, on peut être là, ah, oh, j'aime, réussi, mais quelquefois, on peut être révolté. Et ça, c'est une autre réalité de la vie. Soit on réussit, soit on est révolté. Soit je réussis ma vie, ou soit je suis révolté de la vie. Et pour être honnête, moi, je vole entre les deux quelquefois. Parce que moi, je veux réussir, mais souvent, je suis vachement révolté. Et l'homme, il est révolté souvent contre l'injustice, contre ce qu'on subit injustement. Et pour Camus, c'était le propre même de l'homme, d'être révolté. Et donc, quelquefois, en tant que chrétien, on a un peu honte qu'on est révolté. Et bon, je pense que c'est normal d'être révolté de temps en temps. Et quelquefois, on subit de telles injustices que c'est normal d'être révolté. Moi, j'ai des amis qui sont complètement révoltés en ce moment. Ils sont révoltés devant un cancer, ils sont révoltés devant les guerres, ils sont révoltés devant les enfants qui meurent de faim, ils sont révoltés devant quelqu'un qui ne dit jamais merci, qui dit jamais merci, qui en fait tout, et après en retour je n'ai que des insultes, je suis révolté. Et donc le pouce là, c'est entre je réussis, je suis révolté, ça continue. Quand on est révolté, là souvent on voyage vers le premier doigt, et le premier doigt c'est la rébellion. Voilà, j'accuse, quand même ils ont l'air, j'accuse. Et quand on est révolté, le pouce est bien dans le sens révolte, la première réaction normale, hein, je ne vous condamne pas, je parle à moi-même, c'est qu'on accuse. Et premièrement, on accuse Dieu. Parce que même les athées accusent Dieu. Là, c'est incroyable. Moi, j'ai des gens, ils sont complètement athées, mais ils accusent Dieu quand même. Et donc, je dis, mais sois honnête. Si tu crois pas en Dieu, tu peux pas le blâmer parce qu'il n'existe pas. Mais non, je veux blâmer Dieu, mais je veux aussi être athée. C'est incroyable ça, j'ai jamais compris ça, mais bon. Mais quelquefois, on est obligé de passer par ces étapes dans notre vie. Moi, c'est ma propre main là. Quelquefois, je suis révolté. Et là, je passe à la rébellion. Et j'accuse, je dis, mais Dieu, c'est pas juste. Mais quand j'accuse Dieu, en tant qu'athée ou croyant, j'accuse aussi les autres. Et donc j'ai une main en eau, mais j'ai une main aussi qui va vers, horizontalement, vers mon frère, vers ma soeur, vers mon mari, vers ma femme, vers mon frère, vers ma soeur, vers le président de la République, vers quelqu'un. Ah, c'est ta faute, c'est ta faute. J'accuse. Et tu as les gens qui vivent dans une rébellion toute leur vie. Révolte, rébellion, révolte, rébellion, révolte, rébellion. Et là, je comprends. Mais si vous êtes dans la rébellion, là, tout le temps, c'est pas si... Fais ça, accuse quelqu'un, maintenant. En haut ou en bas, et... allez, accuse Claude, là. Mais juste fais le signe, tout le monde, fais le signe. Allez, accuse, comme ça. Même si vous pouvez m'accuser. Allez, accuse le prédicateur. Voilà. Allez, vous pointez tous vos doigts vers moi. Allez, je veux voir vos doigts. Il faut le faire. Allez, je veux. Et donc, quand vous faites ça, pour ceux qui font. D'accord. Vous avez un doigt contre moi. Non, contre moi. Vous m'accusez. Donc, il y a un doigt contre moi, mais combien contre vous? Et donc, chaque fois qu'on dit Dieu, l'autre, il faut quelquefois prendre un peu de temps, de dire, mince, aide-moi dans cette équation. Parce que c'est tellement facile d'accuser l'autre, c'est tellement facile d'avoir cette réaction, Dieu, l'autre. Mais moi, dans cette équation, il y a quand même trois options ici. Et donc, parce qu'on est de braves gens, il y a les gens, ils coupent leurs trois doigts ici. Ils ne veulent plus les voir. Ils disent, non, moi je suis parfait. Il n'y a rien à faire avec moi. C'est l'autre, c'est Dieu, c'est le voisin, c'est les politiciens. Mais moi, non. Et donc, paf, ils ont plus ces trois doigts. Et donc là, ils sont les gens comme ça, ils vivent comme ça. Et c'est terrible de vivre avec quelqu'un comme ça. C'est terrible. Parce qu'ils ne se mettent jamais en question. Ils ont toujours raison, ils accusent tout le temps. Et donc, ils vivent continuellement dans la révolte et la rébellion. Oh, c'est tellement fatigant. C'est usant, parce que finalement, quand tu accuses Dieu, tu sais, tu ne vas pas, petit homme que tu es, celui qui a créé l'univers, ah, je t'accuse, d'accord. Et Dieu, il t'aime, mais tu ne vas pas changer. C'est comme si tu tapes tête contre un mur en accusant Dieu. Que tu as raison, d'accord, tu as raison, Dieu a tort. Bravo, tu es plus intelligent que Dieu, tu connais le monde et tout ça. Mais ça sert à quoi d'être en rébellion avec Dieu? Et même quand tu es en rébellion contre le frère ou la sœur, tu veux le tuer, d'accord, tue-le, tu te sens mieux. Tu vois, finalement, même d'être continuellement contre quelqu'un, ça ne t'aide pas. Et le jour où quelqu'un se rend compte de ça, ça aide. Parce qu'on peut aller plus loin que la rébellion. Dieu veut que nous vivions au-delà de la rébellion. Même si on passe par ça quelquefois. Même, c'est normal, je dirais, c'est normal qu'on ait un être humain bien construit. On va passer par des moments de révolte. On va être révolté. Qui n'est pas révolté devant la mort d'un être cher? Même celui qui a beaucoup de foi, c'est terrible quelquefois. Même Job, il maudit pas Dieu, bien sûr, mais il avait des paroles. Il dit, mais je comprends pas. Ça semble tellement injuste. Après toutes mes prières, après tous mes efforts, mais quand même. Et on passe par là. Et après, on peut même accuser. Mais il faut écouter nos langues quelquefois. Parce que nos langues sont un peu imbibées quelquefois, d'un petit peu de rébellion. Mais bon, c'est normal, pourvu qu'on prend le temps de se mettre en question. Et si vous ne coupez pas vos doigts, vous pouvez aller plus loin. Allez, ce doigt-là, je dirais c'est le doigt, si ça c'est révolte, si ça c'est rébellion, ça c'est le doigt de la résignation. On peut dire, voilà, je suis tellement fatigué, je me résigne, je ne peux rien changer. Et ça, c'est un peu ce que les Grecs, ils appelaient une sorte de philosophie stoïque. Voilà, je vais juste perdurer dans la situation. C'est assez admirable. Hein? Moi, j'ai beaucoup d'amis, ils ne sont pas tous chrétiens, mais ils sont très stoïques. Ils veulent dire, voilà, je ne peux rien changer, mais je vais essayer d'aimer, je vais essayer de faire le bien. Mais ils sont quand même plus ou moins frustrés parce qu'ils retombent toujours devant la mort, devant les injustices. Et donc là, ils vacillent facilement de nouveau entre ces deux-là, tu vois. Mais quand même, on peut être résigné. Et même dans cette résignation, on peut dire, voilà, comme le poète Ronsard a dit, « Vivez si vous m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. » Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Ah, je vais vivre pour le plaisir. Je vais devenir hédoniste. Je ne peux rien changer. La vie est injuste. Je suis dans la révolte. Mais foum, je vais plonger dans la vie. Il y a beaucoup qui font ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas non plus? Parce que c'est pas mal. Moi, je préfère vivre là que là, par exemple. Autant être résigné. Voilà, résigné. Mais comme je dis, le plaisir, le stoïcisme, c'est quand même souvent frustré, quand même. Parce qu'il reste derrière la mort, il reste derrière la souffrance. Et un jour, c'est vrai, on va tous mourir. Cette grande injustice de la mort, comment régler? Et donc, revenons à Spock, paix et prospérité. Révolte, rébellion, résignation. Mais il y a plus. Et là, ce qui est la chose la plus importante ce matin, c'est l'espace. C'est l'espace-là. C'est dur. Est-ce que vous arrivez à faire cet espace, hein? Il y a certains qui le font. Si on arrive à le faire, ça montre qu'on est un génie. Mais est-ce que vous pouvez avoir une très grande espace? Est-ce que vous arrivez à faire un grand espace, hein? Parce que cet espace est très intéressant. Parce que de là, c'est le plus dur. C'est de passer... Le plus dur, c'est de passer de là à là. C'est de passer de là à là. Parce que là, c'est la résignation. Et ça, j'ai une bague. Ça, c'est une relation. D'accord? C'est le doigt de la relation. Et donc là, il faut passer de la révolte, de la rébellion, de la résignation à une relation. Ça change tout. Si vous passez à une relation. Mais il y a un espace là. Et cet espace, je vais vous donner un nom, mais je vais le préparer. Cet espace là, ça s'appelle penser autrement. Penser autrement. Ouais. Penser autrement. Parce que on est tous, est-ce que je peux dire, indoctrinés par les médias, indoctriné par nos potes, nos copains, indoctriné par la culture familiale, indoctriné par un tas de choses, c'est inévitable. Mais si vous venez à l'église, si vous lisez la Bible et tout ça, c'est une invitation de penser autrement. Et moi, j'existe pour aider les gens à penser autrement. Si je prêche ce matin, c'est pour vous aider à penser autrement. Mais on a besoin de ça. Donc, quelle opportunité ! Qui vous donne dans ce monde une opportunité de penser autrement ? Et ça, c'est une opportunité. Malheureusement, dans certaines religions et tout ça, au lieu de voir ça comme une opportunité, on a transformé ça comme une sorte de condamnation. Si il faut penser autrement, on a transformé ça en une sorte de manière sectaire d'influencer les gens ou de manipuler les gens. Mais loin ne pourrait être plus loin de la réalité de cet espace. C'est une opportunité, une invitation. Pensons autrement. Et le mot grec pour penser autrement, c'est metanoia. Metanoia. Noia, ça vient de naos. Ça veut dire mes pensées. Naos. Naos. Nous. Et meta, c'est changer. Changer d'avis. Changer ta manière de voir des choses. Changer ta manière purement matérielle de voir des choses. Essayer de penser autrement, de penser qu'il y a un esprit, que le monde est plus grand que le matériel. Et metanoia, traduit dans nos Bibles française, c'est la repentance. La repentance, pardon, la repentance. Et quand je dis « repentez-vous », vous pensez à un Dieu avec une grosse barbe qui est là. Je dois me repentir, tu vois. Et au lieu de voir ça comme une opportunité, pour moi c'est une opportunité fantastique. Je suis tellement content que même aujourd'hui je peux penser autrement. Parce que moi je pense mal quelquefois. Moi, je suis dans mes ornières, mes préjugés. Voilà, ça, c'est nul. Jusqu'à ce que je pense autrement. Dieu me donne la grâce de réfléchir autrement. Le Saint-Esprit vient en moi. Il me donne cette conviction. Je dis, mais Robert, tu te prends pour qui ? Avec ton orgueil, avec toutes tes pensées comme ça. Allez, est-ce que tu vas penser autrement ? Et quand je donne le temps de ne pas amputer ce doigt-là, ça m'aide, ça m'aide. Et donc, il faut penser autrement. Ça, cet espace s'appelle la repentance. La repentance. Et c'est une invitation. Je veux vous guérir de votre condamnation par rapport au mot repentance. Tu vois, parce qu'on est tellement indoctriné. Oh, la repentance. Oh. Non, c'est une opportunité. Ça fait grandir. Ça fait grandir. Mais c'est tellement nécessaire. Si tu veux la bénédiction ce matin, il faut faire le passage entre rébellion, résignation. Il faut faire le passage vers la relation. Et le passage vers la relation, c'est la repentance, c'est de penser autrement. Mais ça devient intéressant. Parce que là, cette vie-là, avec ces deux doigts-là, c'est la vie de la révolte. Mais quand tu es ici, c'est la vie de la réussite. C'est la vie de la réussite. Et la réussite commence avec une relation. Tout le christianisme est au sujet d'une relation. Au sujet d'une relation avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Qui n'est pas juste un personnage historique, mais il est un personnage vivant aujourd'hui dans l'Église et dans nos cœurs. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant en nous par le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut faire ce pas-là de repentance. Et là, tu trouves l'alliance. Ce doigt-là, bon, pas tout le monde a une... Mais moi, j'ai une alliance, je l'ai depuis 35 ans. Et donc là, j'ai une alliance. Et cette alliance me parle chaque fois que je vois ça. Je dis, mais Seigneur, tu m'aimes. Quand Sylviane m'a donné cette bague, c'est un acte de loyauté, c'est un acte d'amour. C'était pas juste, voilà, on va vivre deux mois ensemble. C'était, voilà, on va faire pour la vie, là. On va faire, je vais souffrir pour toi. Je vais souffrir en étant avec toi, mais je vais aussi être heureux. Mais tu vois, c'est une alliance. Et nous venons de faire la Sainte Cène. Très bien, bon moment ce matin. Ouais, et ça... Pascal l'a dit, il l'a lu, c'est la nouvelle alliance. C'est une alliance, et en Matthieu il dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et le premier truc, relation, Si on ose, par notre autre manière de penser, développer une relation, on peut être pardonné par cette relation. C'est une alliance de grâce, une alliance de pardon. Parce que là, tu vas faire une relation avec quelqu'un qui est totalement amour, qui est totalement pur, qui est totalement juste. Et toi, quand tu es devant lui, tu te sens un peu mal quelquefois. Mais là, quand il te dit « mais je t'aime et je te pardonne », waouh, tu es à l'aise, tu es à l'aise, tu es à l'aise. Et c'est ça la première invitation. On a déjà fait d'être à l'aise avec cette relation. Parce que je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix et que son sang a été versé pour le pardon de mes péchés. Ça c'est le christianisme, ça. Ça, c'est penser autrement. C'est-à-dire, voilà, je ne peux pas gagner mon propre salut. Ce n'est pas en allant à genoux à Lourdes, ce n'est pas en donnant tout mon argent, c'est pas... On peut faire des œuvres, je ne suis pas contre, mais ces œuvres ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est cet acte-là, c'est ce passage vers une relation avec Jésus-Christ, vers une alliance. Et c'est ça que Dieu il nous invite à vivre. C'est-à-dire, Seigneur, j'accepte que, et je crois que tu es mort. Tu sais, tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui n'existe pas pour toi. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui est juste, je ne sais pas, une sorte de mythologie pour toi. Tu as une relation avec quelqu'un que tu connais, qui est là dans ta vie. Et Jésus est réel dans ce repas, dans l'Église, dans nos paroles, dans nos relations. Jésus est réel et il pardonne. Il y a trois choses dans cette alliance, d'accord? L'alliance du pardon, la nouvelle alliance, la coupe, la nouvelle alliance pour le pardon des péchés. Mais allez, je vais juste donner deux autres vite fait en Ésaïe 54 et Ésaïe 55, hein, le grand prophète de l'Ancien Testament. Il parle de deux alliances prophétiquement. Et verset 10, c'est pas grave si vous l'avez pas, mais Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'ébranleraient, waouh, mouvement, tremblement de terre, ma vie, ah, ça change. Tu sais, on est vulnérable dans ces moments de changement dans notre vie. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance, ça veut dire mon hesed, mon amour éternel, ma loyauté, mon engagement envers toi, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellerait pas. Dieu dit l'Éternel qui a compassion de toi. Il t'aime, il a compassion de toi, il n'est pas là pour te taper avec un bâton. Mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle d'une alliance de paix. Mon alliance de paix, c'est l'alliance de shalom. Et donc là, quand tu changes autrement dans cette relation, tu trouveras le pardon et tu trouveras la paix. Donc quand je vois mon doigt, même là, quand les choses chancellent autour de moi, quand je suis tenté à faire ça, quand je suis tenté, oh, je régis, oh, ouais, ça va, je serre mes dents, tout ça. Non, mais j'ai fait l'effort de réfléchir, je vais changer, Seigneur. Et là, je trouve le pardon pour mes erreurs. Et je trouve aussi la paix. Mais il y a un autre, et ça c'est en Ésaïe 55. Il dit, tendez l'oreille et venez à moi. 55, toi. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Celle de la bienveillance. Celle de la bienveillance. Hesed. Hesed. Amour indestructible. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Cette hesed, ça c'est l'hébreu pour bienveillance, mais c'est un contrat, c'est une alliance, celle de la bienveillance fidèle, cette alliance que Dieu établit pour nous. Et donc, ça c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de sauter là. Paix, l'envie, prospérité, mais tac, allez, je pense autrement et j'entre en relation. Et dans cette relation, j'ai le pardon, j'ai la paix et j'ai le hesed, j'ai l'amour indestructible et éternel de mon Dieu qui m'aime. Et donc, Ça, c'est le plus important. Mais si vous voyez, de là, c'est le point le plus haut. Peut-être, je me débrouille dans la vie, stoïque. Voilà, je vais quand même faire, mais sans Dieu. Ça, c'est le point de l'orgueil, là. Ça, c'est le point de l'orgueil. C'est l'humanisme total, pour le bien ou pour le pire. Mais si tu vois, tu dois descendre. Tu vois, ce point haut, tu dois descendre. Et il y a un pas d'humilité, là. Et après la relation, ce petit doigt-là, je ne vais pas trop dire de ce petit doigt, mais est-ce qu'avec le petit doigt, vous pouvez faire ça? Vous avez fait ça? Tu fais guili-guili. Tu fais guili-guili avec ce doigt. On débouche l'oreille aussi, ça. Et parce que ce petit doigt-là, si ça c'est la relation, celui-là c'est la résurrection. C'est la résurrection. Et ça c'est le dernier mot de l'humanité, c'est le dernier mot de Dieu sur nous, face à la mort, face à la maladie, face aux mauvais temps, tu ressusciteras. C'est comme Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. Et je suis déjà ressuscité. Il y a une partie en moi, le vieux. Si vous avez rencontré le vieux Robert, honnêtement, il y a quelque part enterré dans les eaux du baptême, quelque part enterré, il y a 35 ans, il y a quelqu'un qui s'appelait Robert Rive. Il avait des cheveux longs comme ça, et des boucles d'oreilles, tout ça, et il jurait tout le temps. Bon, quelquefois ça revient hein, quand je suis un peu là. Je ne dis pas qu'il est totalement... Bon, je le ressuscite quelquefois, je fais bouche à bouche. J'ai tellement envie qu'il soit revivant. Mais quelque part, il est mort. Et vous êtes devant un homme ressuscité. Bon, c'est pas pleinement accompli, parce que je ne brille pas trop encore. J'ai pas pleinement, je ne peux pas passer par des murs encore, mais bon, j'essaie. Mais tous les obstacles, il y a des choses incroyables que je suis devenu. Parce que j'ai fait le choix de penser autrement. Et j'ai plus peur de la mort, de la maladie, de tous ces trucs. Et même si c'est le désastre total, j'ai la foi dans la résurrection. Et ça, c'est très pratique pour chaque jour. Et donc, moi, mon pouce est plus dans la relation et la résurrection. Et donc, je suis plus le livre de Michel Coist, réussir. J'ai réussi ma vie. Je ne suis pas en révolté, en rébellion, en résignation. Je suis en relation. Je suis dans la résurrection. C'est pour ça pourquoi j'ai fait guili-guili. C'est parce qu'il y a un poète qui a dit que la résurrection était un rire libéré pour l'éternité. Un rire qui résonne dans la vie des saints. Tu vois, moi j'aime bien cette définition. Parce que Isaac, qui est un peu la première image de la résurrection, tu sais, il quitte l'autel avec Abraham et tout ça. Isaac, ça veut dire « il rit ». Et donc, je pense que quelque part dans cette... Tu vois, Dieu est heureux, le ciel est heureux. Il y a un rire de résurrection. La mort est vaincue, le mal est vaincu, la méchanceté est vaincue. Il n'y a plus de larmes, il y a la guérison totale pour l'éternité, la grande lune de miel. Moi, j'ai envie de rire, mais pas un rire moqueur. Pas un rire qui profite de quelqu'un d'autre, mais ce rire de joie. Voilà, le monde n'est pas une grande situation horrible. Mais c'est, je peux rire et je peux faire venir le rire du ciel dans mon cœur de chaque jour. C'est si Satan déteste une chose, c'est le rire de la foi. C'est le rire de la résurrection. C'est d'être là bien dans ta peau, même au milieu des pires endroits. Là, tu sais, personne ne peut voler ça de ton cœur. Personne ne peut voler. Et donc, réussir sa vie, c'est de faire ce voyage. Comme j'ai dit, de temps en temps, je suis tenté à revenir. Tu sais, ça bouge, le pouce. Mais là, je suis plus ou moins resté là. Et comme je dis, cette distance-là, la relation vers la résurrection, peut-être que vous pouvez mesurer, prendre une mesure à la maison et dire combien de distance est-ce que j'ai là. Et cette distance-là, c'est une descente. Parce que dans cette relation avec Jésus, tu vas mourir. Désolé, tu vas être attaché à la croix. Toutes tes imperfections, toutes tes hontes, tous tes péchés, toutes ces choses horribles, tous tes complexes vont mourir. et tu vas ressusciter aux nouveautés de vie. Il n'y a pas de résurrection sans mort, sans mort. Et donc cette distance-là, c'est un peu le baptême. Tu vois? Tu peux, et chaque fois que vous voyez la distance de la relation à la résurrection, vous pouvez dire là, c'est mon baptême. Et j'ai l'impression qu'on a un baptistère là ce matin. Parce que là, je dirais, c'est très bien d'être baptisé. Parce que le baptême, c'est la confirmation de se penser autrement. Et c'est quelque chose qu'on témoigne aux autres. Voilà, je pense autrement. J'ai une relation. Et après, tu vas descendre. Et tu vas ressusciter en nouveauté de vie. Et donc peut-être cet petit espace-là, c'est l'espace du baptême. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc voilà, j'ai dit que j'allais vous donner trois bénédictions. Ça c'est le premier, d'accord? Allez, l'envie, prospérité, réussis votre vie, réussis la main de la réussite. Ne pas être dans la révolte, ne pas rester dans la rébellion, l'accusation. Ne pas être juste stoïque dans la résignation, mais ose, fais la repentance, pense autrement. Relation, résurrection. Mais quand j'ai étudié tout ça, tu vois, je suis allé sur Internet, je voulais voir la main de Spock et tout ça. Et après, j'ai fait une découverte incroyable, parce que je dis, je vais vous donner trois bénédictions. Et j'ai trouvé que Spock était juif. Léon Nimoy, là, il était juif. Et lui, il a dit... Quand les gens lui ont dit, mais où est-ce que tu as trouvé cette bénédiction? Il a dit, je l'ai trouvé chez les prêtres juifs. Et je l'ai trouvé en nombre. Et donc je vous invite à faire des recherches, vous pouvez trouver des images de comment le prêtre, le lévite, le souverain sacrificateur, comment il mettait ses mains quand il bénissait le peuple. Et je vais vous dire comment il mettait ses mains. C'est incroyable quand j'ai vu ça. J'ai dit, waouh! Il faisait comme ça. Comme ça. Il faisait comme ça. Il bénissait le peuple. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Je vais vous dire. Parce que ça, ça fait la lettre Shin de l'alphabet hébraïque. Et le Shin, c'est shh. Et quand ils font ça, c'est Shaddai, Shaddai, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et souvent leurs mains de prêtre, c'était ce Shin, Shin, Shaddai. Et après, je dis, waouh, quand j'impose mes mains, Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Il y a aussi un sens, Dieu qui pourvoit, Dieu qui nourrit. C'est le mot qu'on utilise pour les saints en grec aussi, ce qui nourrit, ce qui donne la vie. Shaddai, Shaddai. Et le prêtre, il devait joindre les pouces aussi. Et comme ça, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Parce qu'on compte l'espace là, 1, et après l'espace 1, 2, 5. 5 espaces, c'est comme le Torah, les 5 livres du Torah. Et après, il disait par tradition que par les espaces, la lumière de Dieu brillait. La lumière de Dieu passait par ces 5 espaces. C'est un peu mystique, mais... Et même les gens, ils devaient couvrir leurs mains avec un drap à cause de ça. Parce qu'ils ne devaient pas voir la gloire, le Shekinah de Dieu. Incroyable. Mais là, il n'y a pas juste le Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Mais il y a aussi Shalom. C'est aussi Shin. Ça commence aussi avec le Shin. Là, on fait Shin comme ça. Ça, c'est Shin. Vous pouvez voir. Trois petits points. Shin, Shin. Et dans leur traduction, c'est comme ça, la tradition juive fait ça aujourd'hui. Le prêtre, il fait ça. Chin chin, oui. Chin chin. Shaddai, Shalom. Shaddai, Shalom. Et il y a un troisième, Shama. Écoute, ô Israël, ton Dieu est un Shaddai, Shalom. Shaddai, Shalom, Shama. Incroyable. Et après, moi, parce que je suis inventif, j'ai vu tout ça, je dis c'est fantastique. Et après, je dis c'est comme le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit.
Je suis sûr que tu serais rempli du Saint-Esprit si j'impose mes mains sur toi maintenant comme ça. Wow, tu vois, incroyable. Ça change. Et donc, Spock, il a vu ça dans la synagogue et il l'a emmené à Star Trek. Mais c'est vrai. Allez regarder dans, sur Wikipédia. C'est comme ça que je l'ai trouvé. J'avais fait ça moi-même parce que j'ai trouvé. Et après, je dis, mais oh, tu es tombé dans quelque chose d'incroyable là. Et donc, pour terminer, je vais juste lire les deux autres bénédictions. Genèse 49, 25. D'accord ? Parce que ça, c'est la première bénédiction. Al Shaddai. Shaddai. Shaddai, Shaddai. Et donc, Genèse, j'ai donné la bénédiction Spock, hein, longue vie, prospérité. Deuxième bénédiction, Genèse 49, 25. Allez, je vais le faire. Par le Dieu de ton Père, qui sera ton secours, avec le Tout-Puissant, le Shaddai, avec le Tout-Puissant, avec El Shaddai, qui te bénira des bénédictions du haut des cieux, des bénédictions du fond de l'abîme, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alléluia. C'est la bénédiction de ce cœur de mère de Dieu, je dirais. C'est un petit bébé qui tète. Il n'y a rien de plus joli. Tu vois, il y a tout ce bon lait qui le nourrit, qui le guérit, qui le protège de toutes ces méchancetés du monde. Il est à l'aise. Et Dieu, il dit, ce première bénédiction, c'est la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Mais c'est aussi ce lait spirituel qui nous nourrit du ciel. Et quand tu te lèves le matin et tu dis, mince, encore une journée, je suis révolté, je suis en rébellion et tout ça. Allez, tête un bon coup avec Dieu. Ouvre la bouche de ton cœur et tête le lait divin de Dieu. Le lait de El Shaddai. El Shaddai veut te bénir. Et pour terminer, la bénédiction classique de Nombre, qui est aussi faite dans les synagogues, avec le prêtre qui fait ça, avec ses mains, et qui pose ça sur l'assemblée. À la fin, il y a tout un rituel, et comme je vais lire Nombre 6, 22 à 26, l'Éternel... Attends, on va tous se lever. Allez, on va tous se lever. Je vais vous bénir pour terminer la paix, comme on dit dans les églises. Mais ce que je fais pour vous, vous pouvez faire aux autres, d'accord ? C'est personnel. Et cette main-là, vous allez emmener avec vous, à moins que vous coupez la main. Cet enseignement, c'est avec vous pour toujours. Hein, c'est désolé. Hein. Mais je vais vous bénir. Et vous pouvez bénir votre foyer après. Vous pouvez bénir les gens. Il y a une puissance. Et quand je pense, comme il dit dans la tradition, que la lumière de Dieu, le Shekhana, la gloire de Dieu, passe par les trous. Je trouve ça magnifique. C'est un peu... Allez, je vais vous bénir. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Shalom, Shamar, Alléluia.